Sortie de boîte, Cédric Adrover.
Il faisait beau lorsque je suis allé rencontrer mon invité dans ses locaux. Il y a quelques semaines, on pouvait encore voir de la neige au bord des routes. C'est au Noirmont que l'entreprise Cédérome a son siège, dans le bâtiment de Créapol, le même que nous avions visité il y a quelques semaines dans Sortie de boîte, lorsque nous avions parlé de l'entreprise Initium. Je ne savais pas encore à l'époque qu'il y avait un vrai coffre-fort numérique dans ce bâtiment. J'arrive dans le hall, je vois un logo sur une porte, je le prends en photo pour une illustration sur notre site internet de la routine. Puis je monte à l'étage pour aller à la réception de l'entreprise. J'entre, quatre personnes sont là, on me dit « c'est interdit de prendre des photos, on vous a vu, Big Brother is watching me ». Évidemment, ils ont le sourire, c'est pour plaisanter, mais je comprends tout de suite qu'on ne plaisante pas ici avec la sécurité. On discute autour d'un petit déjeuner, la passion est là, chez le directeur, chez les fondateurs qui sont aussi là. On parle d'écologie, on voit des éoliennes par la fenêtre, puis on visite. À chaque fois, il y a un code à taper sur une porte, notre invité fait rempart de son corps pour que je ne puisse pas voir. Pas qu'il ne me fasse pas confiance, enfin en tout cas je crois pas, mais juste parce qu'on ne transige pas avec ce qu'il y a en sous-sol. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas des diamants, mais si ça se trouve, ça a encore plus de valeur. Ce sont des données informatiques qui se trouvent chez mon invité. On en parle avec lui jusqu'à 19h et pas en binaire. Bonsoir Jean-Pierre Herrera.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
Jean-Pierre Herrera, vous êtes le directeur donc de Cédérome. Merci d'être avec nous ce soir. Un mot sur vous avant de parler de l'entreprise. Vous avez toujours été bercé par l'informatique.
Oui, tout à fait. Ça m'a toujours passionné. Et je viens de l'informatique d'infrastructure, donc tout ce qui est serveur, firewall, sécurité, networking. Donc ce qui se rapporte passablement à un data center.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris au bout d'un moment la tête de l'entreprise Cédérome?
Ah, ça s'est fait... En fait, il y a quelques années que je connais ce data center. Et de ce fait, j'ai fait connaissance, on va dire, des trois anciens propriétaires. Et dans une discussion, ils m'ont proposé de reprendre ce centre. Et immédiatement, j'étais enthousiaste en leur disant oui.
Les trois propriétaires, les trois créateurs qui ont d'ailleurs donné leur nom à l'entreprise. Hein.
Exactement. Donc Cédérome, c'est C de Claude, D de Daniel et puis R de René.
Ils tenaient à ce qu'elle reste en main jurassienne, cette entreprise. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'était important. Pour quelle raison?
Alors, dès le démarrage de cette société, il faut savoir que le canton du Jura a participé grandement au démarrage de ce data center parce que c'est des gros investissements. Et il était clair que si ça devait être remis à quelqu'un, la priorité était de le donner, de le proposer, on va dire.
C'était pas un don.
Non, c'était pas un don. De le proposer à une ou des personnes de l'arc jurassien. Et ça a abouti que j'ai repris cette société en octobre 2016.
Ils sont toujours présents. Quand on dirige une entreprise qui a été fondée par d'autres, ça met une pression supplémentaire.
Non, je dois dire même, j'ai de la chance parce que il y a vraiment encore une relation très forte entre les trois anciens propriétaires et on a vraiment réussi à lisser, si on peut dire comme ça, le fait des transitions en cours, les clients qui futurs et passés, on les a tous visités et ça se passe très bien et on a encore beaucoup de contacts. Ensemble.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin?
Alors, première chose, c'est que j'aime beaucoup mon métier. Donc ça, c'est clair que c'est déjà la priorité. Je ne me dis pas, je dois me relever comme ça. Et c'est un métier qui est vraiment dans le vent. Donc, il y a beaucoup de technologies. On rencontre beaucoup de gens très, très intéressants. Et tout ça fait que je suis vraiment heureux, quoi.
Tout le monde n'a pas la chance de visiter votre entreprise, il y a beaucoup de sécurité, vous allez l'entendre, on a pu la visiter. Avant ça, pour beaucoup de gens, c'est un peu abstrait comme activité hébergeur informatique, data center. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible, qu'est-ce que c'est?
Alors, chez Cédérome, on est vraiment des hébergeurs purs. Ça veut dire qu'on va mettre à disposition à nos clients des locaux ultra sécurisés, redondants au niveau différentes choses, électricité, refroidissement. Et en aucun moment on voit les données de nos clients, on met à disposition, c'est un peu comme si on comparait une banque à des coffres-forts, mais en fait on ne sait pas ce qu'ils ont dedans.
Comme un disque dur externe. Je simplifie énormément, mais c'est pour chercher à vraiment bien comprendre. Si j'ai une entreprise, mes données peuvent être chez vous, elles sont ultra sécurisé. On peut résumer comme ça ?
Alors, au niveau de l'infrastructure qu'on met à disposition, on peut vraiment dire cela. Après, ce que le client met, nous, on ne sait pas ce qu'il met comme, comme type de serveur, comme type de disque dur, pour vulgariser.
Jean-Michel Probst est venu vous rendre visite. On va le retrouver avec Claude Schafter, l'un des initiateurs de l'entreprise. On va comprendre à quel point la sécurité est importante. Ça va des ventilateurs qui assurent une température constante dans les locaux, jusqu'à la sécurité à l'entrée, SAS, porte blindée, système d'empreinte digitale. Après avoir présenté sa carte d'identité et signé une feuille rappelant quelques règles, dont l'interdiction des photographies, il a pu entrer dans ce lieu très sécurisé.
Sortie de boîte.
Ici, on entre en fait dans la première partie, qui est la partie technique de ce data center. On a déjà une porte avec un système digicode qui va nous permettre d'entrer. Et là, je vous expliquerai la suite du programme.
Une vidéosurveillance, là, donc il y a une caméra.
Voilà, sur chaque porte, sur chaque lieu de passage, il y a toujours une caméra qui permet de surveiller un peu le système. Voilà, ici, nous avons un SAS intermédiaire. Donc ici, donc dans cet endroit, eh bien on a confiné toutes les installations de coupure de courant, de zones pour faire par exemple ce qu'on appelle du bypass. Si on devait tout à coup arrêter une des machines, on pourrait le faire à partir d'ici. On a également dans cette zone tout ce qui concerne la transmission des alarmes. On est cinq personnes dans l'entreprise à recevoir donc toutes les alarmes qui proviennent de ce centre, parce que des alarmes, il y en a, qui ne sont pas forcément des alarmes durant lesquelles on doit intervenir. Ça peut être des alarmes tout à fait normales. Si on a un excès de température, si on a quelqu'un qui fait une effraction, si on a par exemple un départ d'incendie, tous ces éléments vont nous être communiqués par une alarme en fait, qu'on reçoit sur les portables. Ça nous permet d'être extrêmement réactifs pour nos clients et aussi depuis la maison ou depuis l'endroit détaché dans lequel nous sommes, on peut aussi analyser sur notre portable ce qui se passe effectivement dans la salle machine. Ici devant, on est devant la porte d'entrée de la salle principale, ce qu'on appelle chez nous en jargon la salle machine. Cette salle machine, en fait, elle est protégée par cette porte qui est une porte blindée, donc qui est ce qu'on appelle selon la norme WK6. En clair, elle résiste 40 minutes à l'effraction. C'est assez incroyable parce que dans les usines, ces portes, c'est juste pour une petite histoire assez intéressante, il y a des gens qui vont essayer avec un piochard, avec un pied de biche et une masse, d'essayer de casser la porte en moins de 40 minutes. S'ils arrivent, la porte n'est pas homologuée. S'ils n'arrivent pas, la porte est homologuée. Donc ça, c'est des portes qui résistent. Elles ont une couche de J entre deux plaques d'acier, donc c'est vraiment important. Et vous voyez aussi que la pénétration dans ce local nous oblige à faire un accès biométrique. Donc c'est chaque personne qui doit pouvoir accéder ici doit avoir une connexion biométrique sur ce lecteur d'empreintes digitales. Et on voit ici que si on appuie sur le bouton, on a directement le nom de la personne qui accède et la porte s'ouvre. Donc là, vous êtes dans le sein des seins. Donc vous avez aussi une caméra qui surveille l'entrée de cette porte. Donc un des buts principaux de CD-ROM, en fait, c'est d'intégrer les données et physiques et virtuelles des clients qui louent des surfaces dans lesquelles ils vont mettre leurs propres installations, leurs propres infrastructures. Et ça, évidemment, là, on connaît le nom des clients, mais bien sûr, on n'en parle pas. On ne va pas pouvoir donner le nom de client pour des questions de discrétion et de sécurité.
Sortie de boîte.
Un reportage que vous pouvez réécouter en format long sur notre site internet. On est de retour dans notre studio de Lémont avec Jean-Pierre Réra, directeur de CD-ROM, et Jean-Michel Probst qui est aussi là, qui réalise cette émission. Jean-Michel, vous étiez déjà rendu dans un lieu aussi sécurisé ?
Non, je crois pas. C'est rare que je doive donner ma carte de sécurité, ma carte d'identité. Je pensais pas devoir le faire au noir.
Mais on vous l'a rendu.
Oui, évidemment. Quand ils ont vu la photo, ils ont dit non, c'est bon, vous pouvez la garder.
Jean-Pierre Réra, c'est vrai que c'est impressionnant la sécurité. Tout est doublé d'ailleurs, tout est redondant comme dans un avion. Le fournisseur d'électricité, il y a des génératrices. Est-ce que c'est pas exagéré toutes ces mesures en fait ? C'est pas un petit côté paranoïaque ?
Non, je pense pas. On voit l'importance des données qui sont complètement exponentielles. Donc il faut vraiment garantir le 100%, on n'y arrivera jamais, mais s'en approcher le plus. Et tout ça fait qu'on veut vraiment. On appelle ça du N+1, on parle du froid, on va doubler le froid, on parle d'électricité, on va doubler l'électricité, on va doubler tout ce qui est batterie, on va doubler tout ce qui est génératrice, ce qui est introduction électrique, les introductions des fournisseurs Internet sont doublés, redondantes. Donc tout ça fait que...
Vous suivez des normes
Oui, bien sûr. On a des normes, et là, on a encore passé une certification ISO 27001 qui, justement, relève tous ces points et qui est la plus élevée dans notre domaine au niveau accès et sécurité. Et ça aussi, nos clients sont heureux qu'on ait cette certification parce que ça donne tout un système de processus qui sont mis en place.
C'est quoi le plus gros risque ?
C'est difficile, je dirais, c'est le blackout peut-être, même si on a les génératrices, mais...
Voilà, l'électricité ?
Oui, ça reste quand même, je pense, un des domaines les plus sensibles.
Vous avez déjà eu des coupures ?
Alors, ça fait plus de 3 ans qu'il n'y a pas eu une seconde de coupure sur le centre, donc c'est vraiment... non, et pour l'instant, ça fonctionne bien.
Parfois, vous faites des tests, hein, vous coupez vous-même l'électricité, en encadrant le tout, évidemment, vous dormez bien la veille ?
Oui, on dort bien parce que tout est planifié, on a les processus, on prévient nos clients plusieurs mois à l'avance, pour certains clients, même tous, on leur conseille d'avoir des piquets quand même, donc du côté client, tout est mis en place. Au niveau de tous les fournisseurs, il faut savoir qu'ils sont tous là ce jour-là où on fait vraiment un test, on appelle ça le test annuel complet, donc on a les gens de la sécurité, les gens de l'électricité, les gens qui font le froid, qui s'occupent du froid, et tout ça fait que ça se passe bien, mais c'est vrai, quand on coupe l'électricité
ça fait bizarre.
Complète, on a un petit pincement au cœur.
Vous l'avez dit avant, le risque zéro n'existe pas. Quand est-ce qu'on arrête de multiplier les mesures ? Quand est-ce qu'on se dit, bon, bah, là, il y a assez, c'est bon ? Parce que ça doit être très très cher, toutes ces mesures.
Oui, dès qu'on parle de sécurité, ça a des coûts. Je dirais, quand on a déjà tout doublé... on a meilleur temps de se dire, on a un data center qui est tout doublé, et puis c'est de se poser la question vis-à-vis de nos clients, de leur dire, ben, on peut aller sur un deuxième data center qui a une distance suffisante pour garantir justement, je dirais là, on approche vraiment les 100% de qualité de service.
On a aussi entendu parler de discrétion dans le reportage, le secret est aussi essentiel pour vous, pourquoi ?
Alors, c'est des données sensibles, donc c'est sûr que chez nous, vous ne saurez jamais les clients. Et c'est comme dans une banque, en fait. Les gens qui travaillent pour ce centre sont sous contrat de confidentialité, des contrats qui sont mis à jour toutes les années. Donc, il y a tout un système. C'est vraiment une clé de voûte pour nous, dans notre domaine, d'être complètement discret. D'ailleurs, sur le bâtiment, il n'y a absolument rien marqué. Et ça, c'est sûr que c'est très important.
C'est la deuxième fois que vous faites référence aux banques. La Suisse, c'est un coffre-fort pour les données informatiques ?
Oui, je pense. D'ailleurs, quand le secret bancaire est tombé, nos confédérés, ouais, nos cinq sages ont dit on va essayer d'avoir le secret des données numériques. Et c'est vrai qu'on a une carte à jouer parce que notre pays, on sait la stabilité. Et c'est aussi, on a une capillarité des fibres optiques qui est très importante et extrêmement stable en Suisse. Tout ça fait que des entreprises externes à la Suisse sont de plus en plus friands de venir héberger leurs données en Suisse.
Alors, on ne va pas essayer de connaître vos clients. On a bien compris que ce ne sera pas possible. Est-ce qu'on peut au moins parler du type ? C'est quoi, des multinationales, du public, du privé ? C'est à l'étranger, en Suisse ?
Alors, c'est un peu tout type de clients. On n'a pas réellement de canevas à dire « Ah non, mais vous, on veut pas. » Dès le moment où vous voulez mettre une infrastructure dans une haute sécurité, CD-ROM, on est à même à vous proposer quelque chose au Noirmont.
Même pour une petite PME, c'est abordable.
Bien sûr, oui. Parce que chez nous, vous pouvez louer par différentes manières, par mètre carré, par armoire, par demi-armoire, par quart d'armoire et même par U. Donc un U, c'est 44 mm. Et tout ça fait que c'est accessible à un grand nombre.
Qui sont vos concurrents ?
Alors, en Suisse, il y a plusieurs data centers. Hein, c'est sûr que le monde n'est pas bleu. Voilà, je veux dire, il faut être innovant. Et on a plusieurs concurrents, dont des très grands data centers. Mais on se différencie sur différents points.
Lesquels ?
Alors, le fait de ne pas être trop grand, on est extrêmement proche de nos clients, à l'écoute de nos clients. On suit toute la chaîne. Ça veut dire que si vous venez chez nous, on ne va pas vous faire arriver sur un helpdesk puis vous dire, ben, attendez, c'est telle ou telle personne qui s'occupe et puis on cascade les choses. Et on a vraiment une relation directe avec les clients qui est très, très appréciée.
Et la région, le Noirmont, c'est un avantage ?
Bien sûr. Alors, ce data center n'a pas été construit là par hasard. Il y a différents points. Donc, l'altitude par rapport à l'utilisation du froid extérieur pour pouvoir refroidir la salle machine.
Frigo naturel.
Exactement, on appelle ça le free cooling. Le fait des inondations aussi. Donc, on n'est pas du tout dans une zone inondable. On n'est pas dans une zone sismique. Et on n'est pas sous un couloir aérien. Ça, c'est aussi un point important. Et aussi, parce que c'est, sans ça, on ne fait pas grand-chose avec un data center, c'est qu'on est, on appelle ça, sur le backbone de l'information. Ça veut dire qu'on est sur l'autoroute de l'information des plus grands fournisseurs, Internet.
Ça veut dire quoi? Que sous le sol
À proximité du bâtiment où on se trouve, passent les plus grands fournisseurs avec des capacités de fibre optique illimitées.
D'accord. Et vous parliez du free cooling tout à l'heure, une entreprise écologiquement engagée, c'est ce qu'on peut lire sur votre site internet, c'est un argument de vente ?
Oui, alors c'est clair que nos clients sont très friands de aiment bien ça parce que on a quand même une consommation électrique élevée et le fait de pouvoir la diminuer en refroidissant un data center, parce que c'est une grande consommation, si on doit faire tourner des climatisations au niveau des compresseurs, c'est très intéressant. Et aussi, c'était le premier data center en Suisse à faire ça, c'est que le chaud de la salle des serveurs est utilisé pour chauffer tout le bâtiment. Donc on pousse cette chaleur dans les pompes à chaleur du bâtiment qui lui va diffuser dans tous les étages.
Donc cherchez vraiment l'efficacité énergétique au maximum. Sans dévoiler de nom, je peux vous demander si vous avez des entreprises horlogères parmi vos clients ?
Oui, bien sûr.
Il y en a. Les données sur les montres, Marie-Lise, les collecte. Donc c'est pour ça que ça va peut-être l'intéresser. Chaque semaine, elle nous livre une chronique horlogère.
Pile à l'heure.
Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une marque horlogère de l'arc jurassien nommée Sylvana. L'histoire a commencé en 1898 et pour nous la raconter, place au directeur Damien Lavergnat.
Au début, il y avait beaucoup d'horlogers qui faisaient leur propre montre, hein, sans forcément les brander, les marquer. Victor Eugène Baron, donc le fondateur, a décidé en 1921 de déposer Sylvana. Alors, à la création, c'était donc Tramelan, mais c'est un horloger de Chaux-de-Fonds qui a travaillé à Chaux-de-Fonds. Ensuite, qui a développé une manufacture en 1922, toujours sur Tramelan. Ensuite, la société a évolué, s'est développée à l'international, juste dans les années 60-70. Ils ont quasiment couvert le monde entier. On a racheté des modèles en Malaisie, au Canada, au Pérou. À travers le monde. Donc, ils ont fait faillite en 1982, crise du quartz. Énormément de petites marques horlogères ont disparu. Sylvana a fait faillite. Il s'était intégré à la SGT, la Société des Gardes-Temps, qui était basée à Neuchâtel d'ailleurs. C'était une constellation de marques, dont Sylvana, qui était une des plus grosses marques. Donc 1982, crise du quartz, Sylvana s'endort. Elle a été réveillée, réactivée dans les années 80-90, début 2000. Et puis nous, on a pu l'acquérir il y a environ 4 ans et demi maintenant.
Il n'y a pas si longtemps.
On l'a développé, on a retravaillé le concept produit, concept marketing. On a fait toutes ces recherches historiques avec la Chambre économique du Jura. Et puis depuis 2 ans maintenant, on essaye de l'internationaliser. Donc on l'a acheté il y a 4 ans pour un réseau de distribution à Interlaken et Lucerne. Et puis maintenant, donc on la lance sur les marchés internationaux. On a acheté tous ces modèles. Maintenant, on a une collection de plus de 100 pièces historiques hein, qui va du chronographe Valjoux à la Jumping Hours. On a des réveils, on a des divers. On a des extraplates, on a beaucoup de montres féminines, des montres de forme, des tonneaux.
C'est votre collection, c'est votre petit musée,
c'est
si on veut.
Patrimoine, voilà. Plus toutes les archives qui ont été retrouvées. Donc l'historien qui a travaillé sur le projet, il a fait quasiment une année. Il a fouillé les archives, il a fouillé les greniers. Il a même interviewé des anciens horlogers qui travaillaient dans les années 70, avant la faillite de la société. Donc il nous a fait un travail documenté, un rapport universitaire. Donc on est dans du storytelling, mais du vrai storytelling.
Pile à l'heure que vous retrouvez chaque semaine dans Sortie de boîte. La semaine prochaine, il sera d'ailleurs aussi question d'horlogerie dans l'émission. Nous recevrons Sébastien Jeanneret, le directeur d'Atocalpa. C'est une société de Halle, dans le Jura, qui occupe 140 collaborateurs et qui est active dans la fabrication de composants horlogers. Mais ce soir, nous sommes encore pour quelques minutes dans le numérique avec Jean-Pierre Rera, le directeur de CD-ROM au Noirmont, société spécialisée dans l'hébergement de données informatiques. Si on parle d'avenir rapidement, c'est quoi les défis qui attendent CD-ROM pour vous ?
Alors, c'est déjà de faire correctement ce qu'on fait. Hein. Ça, c'est déjà un défi de tous les jours. Ça ne tourne pas sans faire des choses. Et là, on est en construction d'un deuxième data center sur la région de Delémont. Et ça va nous permettre de répondre à des besoins de nos clients au niveau des redondances, au niveau de différentes choses.
Quand vous dites redondance, ça veut dire multiplier les accès, c'est ça ?
Alors, ça veut dire qu'on a des demandes de clients qui disent, nous, on aimerait ce qu'on a au Noirmont, on aimerait la même chose sur un autre site, et que s'il y a une panne dans nos serveurs sur Delémont ou sur le Noirmont, de pouvoir basculer en automatique. Les utilisateurs de leur ordinateur ne le verront pas.
Et donc, on améliore encore la sécurité avec ce deuxième site ?
Oui. Et en ayant les mêmes normes, on va vraiment être dans du N+1, donc au niveau sécurité, au niveau froid et tout, de faire tout à double.
C'est le seul but ou vous commencez à être à court d'espace au Noirmont ?
Alors, c'est aussi que le Noirmont commence à être gentiment rempli, oui.
Quand on parle de serveurs, l'évolution technologique, ça va extrêmement vite, tout le monde le dit. Vous, comment vous vous tenez à jour avec ça ?
C'est en discutant, on fait partie aussi de Vigisuisse, donc entre nous, on est plusieurs data centers qui parlons entre nous, qui allons se visiter, et tout ça fait qu'on est au courant de ce qui se passe.
Certaines entreprises voient l'évolution, parfois il y a des menaces dans l'évolution technologique. L'hébergement informatique, vous pensez qu'on en aura toujours besoin ?
Alors, d'une manière ou d'une autre, oui. Maintenant, au niveau des grandeurs, est-ce qu'on aura toujours besoin d'autant de mètres carrés parce qu'il y a vraiment des très grandes surfaces en Suisse, dans data center. Il faut savoir que l'informatique, on a ça vient dans de l'hyperconvergence. C'est-à-dire qu'un serveur qui faisait, pour schématiser, un mètre cube il y a encore 10 ans, maintenant, on le fait dans 10 litres.
Oui, tout petit espace. Ouais. Oui. C'est la miniaturisation qui est une évolution, mais plutôt une bonne évolution pour vous. Vous avez besoin de moins en moins d'espace.
Alors, oui et non, parce que dans un data center, on vend de l'espace. D'où quelques problèmes de grands data centers, parce que quand on a des data centers qui ont 5000 m2. Hein, donc c'est
ah oui, grand. À ce point-là. Ouais.
Et quand vous aviez 10 ans, il y a 10 ans, des serveurs qui étaient assez grand et que maintenant le même serveur il fait beaucoup moins, donc tout ça fait que ça se réduit aussi au niveau des locations.
Et donc c'est quelque chose qui est à suivre pour vous. On vous remercie d'avoir été notre invité ce soir. On vous souhaite une très bonne soirée.
Merci à vous et bonne soirée.
Je ne sais pas si les données de cette émission passeront par le Noirmont, mais je suis sûr que vous pourrez la réécouter en intégralité sur notre site internet dans le courant de la soirée. Je vous dis à la semaine prochaine.
Sortie de boîte.